C'est une joie d'être avec vous ce matin. On attendait ce moment, on le préparait, on disait « Seigneur, surtout, tu fais qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit de la dernière minute. » Et vous savez, quand on dit « Seigneur, fais qu'il n'y ait pas, fais qu'il n'y ait pas », c'est qu'on sent qu'il y a un truc qui va y avoir. Et la semaine dernière, j'ai été appelé par une famille me faisant part du décès d'un frère qui était là depuis le début de l'Église. Donc, je dirais quelque part, oui, un peu un pilier. C'est un frère qui a beaucoup œuvré pour le Seigneur. Il a donné son cœur à 16 ans au Seigneur. Il s'est converti. Il ne s'est jamais marié. Il a tout fait pour servir Dieu. Il a tout donné à Dieu. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et Dieu l'a recueilli dans sa gloire. Et je crois que c'est une grâce quand Dieu nous accueille dans sa bonté, dans sa miséricorde. Et donc que les pompes funèbres, ils m'appellent et me disent « Écoutez, voilà, on prévoit l'inhumation mercredi. » Je dis « Ah non. Ah non, c'est pas possible. C'est avant ou après. Oui, mais après quoi ? Jeudi ? » J'ai dit « Non, la semaine d'après. » « Ah non, c'est trop loin. » J'ai dit « Ben alors, débrouillez-vous. Trouvez une date avant. » Et finalement, ça a été possible que les choses se mettent en place lundi, parce que c'était important d'être présent. Et aussi vous dire que par la grâce de Dieu, nous voyons le Seigneur agir. On vous remercie pour vos prières. On est porté par la prière. On a senti vraiment la main de Dieu dès le départ, parce que on a eu une situation pas simple, c'est une église en souffrance. Mais Dieu est un Dieu qui guérit le cœur de ses enfants, n'est-ce pas? Alors j'ai juste apporté 3-4 photos, c'est le culte de dimanche dernier. Alors juste vous dire, quand on est arrivé, l'église au balcon, il y avait, vous voyez, il y a un balcon en haut qui peut accueillir à peu près une soixantaine de personnes. Et c'était vraiment, il y avait 10 à 15 personnes. La salle de culte, en effet, il y avait, c'était clairsemé. On peut changer d'image, et ça c'est l'estrade, c'est notre frère qui fait chanter, et cette partie de la salle était complètement fermée, il n'y avait plus besoin, malheureusement. Et on a commencé à prier, à dire « Seigneur, il faut que tu viennes en secours ». Les réunions de prière de semaine, il y avait 15 personnes, et on a vu l'auditoire grandir par la grâce de Dieu. Aux réunions de semaine, il y a au moins 60 personnes. On est arrivé à un pic de 80. On s'est dit « Seigneur, c'est super ». Et dimanche dernier, vous avez vu, l'église était quasiment pleine. Plein de personnes qui reviennent et plein de personnes nouvelles qui viennent découvrir l'évangile. Des personnes qui ne venaient plus à l'église depuis la Covid. Et Dieu les pousse à venir. Il y a un enfant qui a obligé ses parents à venir à l'église. Il lui a dit, écoute, j'ai des problèmes, mes dents ne poussent pas. C'est un gamin qui a un problème au niveau dentaire. Il dit, il doit y avoir plus de 20 dents qui doivent pousser. Dieu peut me guérir. Et il a dit aux parents, maintenant on va à l'église. Et donc il a ramené ses parents, il a ramené sa petite sœur à l'église. C'est bien, hein ? Ça commence bien à cet âge-là, hein ? C'est super. Et on a découvert que c'est des petits cousins Elisabeth. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dieu est bon. Et je voudrais vous dire merci de vos prières, parce qu'on a vu vraiment la main de Dieu. Ce que nous voyons là, nous, on est spectateurs de la gloire de Dieu. Amen. Alors oui, il y a du travail, oui, il y a beaucoup de... que ce soit administratif, mais surtout spirituel. Mais Dieu est miséricordieux. On avait beaucoup de personnes qui avaient laissé leur service. On a fait un appel, et notamment pour les écoles du dimanche dont Elisabeth, elle a la charge. Parce qu'il y a quand même un bon paquet d'enfants. Et le Seigneur a permis que les uns après les autres se lèvent, disent « Moi, je veux donner un coup de main, moi, je veux donner un coup de main, moi, je veux donner un coup de main. » C'est reparti. Et là, on a voulu aussi encourager l'Église. L'année dernière, à Noël, il n'y avait pas eu vraiment un moment convivial, fraternel. Ça avait été douloureux. Et on a évoqué de faire un culte, le culte des familles. Et on a demandé à tout le monde de participer, même nos aînés. Je les ai mis au travail, je dis, vous me faites deux chants pour eux. Frère, mais non, on est âgé. Je dis, c'est pas grave, âgé, c'est pas mort. surtout qu'ils avaient l'habitude de bien chanter au niveau choral. J'ai dit, ben, vous allez reprendre, vous allez redémarrer. Et ils sont contents, tout le monde travaille. Alors tous les week-ends, au niveau du GIP, on a des messages. Moi, je prépare ceci, moi, je prépare cela. On se dit, Seigneur, c'est bon, l'Église est en marche. Et pour la gloire de ton nom, amen. Donc, j'ai reçu un message ce matin, frère, on me dit, bonne réunion à vous et revenez vite. J'ai dit, sois rassuré, on revient vite. Et Dieu fait grâce et ce qui est beau, c'est que c'est vrai qu'on a passé avec vous 6 années merveilleuses par la grâce de Dieu, mais on se rend compte que la famille, elle dépasse les limites. Et je voulais vous dire, ce matin, j'étais limite à me dire, est-ce que je mets une veste parce qu'il fait un peu trop frais dans le sud, alors que dans le nord, un peu de soleil, il pleut pas trop, pardonne-le, hein. Mais j'ai les parapluies dans la voiture. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas où on est, mais c'est avec qui on est. Amen. Alors, quelle joie pour nous d'être avec vous ce matin, de partager ce moment de communion fraternelle, parce que Christ est au centre de toutes choses. Et on veut mettre sa parole au centre de nos vies. Et je voudrais vous inviter à faire un petit partage, une pensée. Avec moi, on va commencer par l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 8 et le verset 16. Jean, chapitre 15, verset 8 et verset 16. Il dira, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » C'est une phrase qui ne vient pas de n'importe qui, mais c'est Jésus lui-même qui nous parle et qui nous dit que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Si on va au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Amen. » Je vous invite à aller toujours dans l'évangile de Jean. On tourne quelques pages en arrière, on va au chapitre 12. Et on a les versets 23 et le verset 24. Jean, chapitre 12, versets 23 et 24. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Amen. La première chose que ces textes nous évoquent directement, c'est la volonté de Dieu, la volonté de son Fils, la volonté du Saint-Esprit, que nous soyons porteurs de fruits. Marqués par l'action et la présence de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas faire autrement que porter du fruit. Avec Christ, il n'y a pas de stérilité. Amen. Avec Christ, il n'y a pas d'absence de fruits, parce que lorsque Christ est là, lorsque lui, il génère la vie dans notre cœur, dans notre âme, lorsque le Saint-Esprit agit, forcément il y a du fruit. Et il dira dans ce texte, ce que mon Père veut, ce qui va glorifier mon Père, c'est que vous portiez, pas un peu, beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Il est question finalement d'être reconnu parce qu'on porte du fruit. Celui qui ne porte pas de fruit, il y a un problème de connexion avec Christ, ne peut pas se considérer disciple puisqu'il ne porte pas de fruit. Il dit le texte que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Un peu plus loin, le texte, il continue en nous rappelant que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est lui qui nous a choisis. Amen. Quel honneur que d'être choisi par Jésus-Christ. Amen. Et je suis sûr qu'il a bien dû à plusieurs reprises tapoter sur ton épaule comme sur la mienne en disant « Je t'ai choisi ». Et moi je tournais le dos, je partais dans l'autre sens et venais dans l'autre sens et « Je t'ai choisi ». Alors je voudrais dire à ceux qui fuient le Seigneur, vous pouvez fuir où vous voulez, il vous rattrapera toujours. Et le plus tôt, ça sera le mieux pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est dommage de passer à côté de tout ce que le Seigneur voudrait que vous puissiez porter comme fruit. Parfois, on regarde sur notre vie, sur notre être, on se dit, mais Seigneur, finalement, ma vie, elle est vide, en quoi j'ai réussi ? Ou peut-être on a réussi dans plein de choses, mais pour autant, notre cœur est vide. On peut réussir financièrement, on peut réussir avec un excellent travail, on peut réussir de beaucoup de choses. Mais finalement, quand on rentre chez soi, si on est vide, si finalement on se dit « Ok, j'ai tout, mais ça me sert à quoi ?» Alors que peut-être on peut manquer de bien, de choses matérielles. Mais oh, combien on est heureux. Je vous disais tout à l'heure, ce frère qui est décédé, j'ai pu aller visiter son logement avec la famille. Et lorsque je suis rentré dans la maison, dans l'appartement de ce frère, j'étais étonné. Une maison très simple, il n'y avait pas de grand mobilier ou quoi que ce soit. La tapisserie était celle de 1930. Rien a été touché. Les peintures, je pense qu'elles datent de la même époque. Même le lustre. Par contre, dans ces placards, que des livres qui rapportent à l'étude de la parole de Dieu. Et ce frère qui vivait d'une grande simplicité, sur son bureau, j'ai vu son bureau, il y avait un rouleau. Et là, plein de diplômes. Langue vive. Il étudiait l'allemand, il étudiait l'anglais. Et un frère me disait, tu sais, si tu oubliais une référence, tu lui demandais, il savait te la dire. Il n'y a pas de souci. Et il étudiait la parole, il a décortiqué pourquoi il y a un point, pourquoi il y a une virgule, pourquoi il y a ce mot. Et il aimait ça. Et je me dis, Seigneur, finalement, et les occasions que j'ai eues de lui rendre visite à l'hôpital, je n'ai pas vu quelqu'un qui était en train de mourir. Ah non. J'ai vu quelqu'un qui se dit « Bientôt, je vais voir mon maître. » La véritable richesse, le véritable bonheur, c'est de se dire « Finalement, je n'ai pas dépensé ma vie inutilement, je n'ai pas perdu de temps, mais j'ai préparé mon cœur et mon âme à rencontrer celui qui m'a créé, celui qui a donné vie à ma vie. » Amen. Alors si ce fruit est si important, sachez aussi qu'il y en a un qui voudrait vous le voler. Lisons ensemble, et c'est le seul texte où je vais vous dire attention. 2 Jean chapitre 7 verset 11. 2 Jean chapitre 7 à partir du verset 8 au verset 11, verset 11. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'est pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, il ne reçoit pas de votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Dieu nous met en alerte en disant « Fais attention à ne pas perdre ton fruit. Fais attention à ne pas perdre ce qui est précieux aux yeux de Dieu. » Ce qui glorifie ton Père, ce qui glorifie Dieu, c'est que tu portes du fruit. C'est Jésus qui te le dit. Mais si ce fruit t'est volé, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu ? Qui est celui qui veut finalement t'enlever ce que Christ veut te donner ? Si ce n'est l'ennemi de nos âmes. Alors vous savez, ne vous attendez pas à voir quelqu'un avec la fourche, avec les cornes, avec... ça ne vient pas comme ça. Non. Il viendra d'une manière beaucoup plus, je dirais, discrète et sournoise. Peut-être c'est la personne que tu as connue et que tu as connue dans un temps, mais finalement tu n'as pas vu comment elle a évolué. Alors si tu veux savoir si c'est quelqu'un de bien, regarde le fruit. Vous savez, ce n'est pas l'arbre qui parle du fruit. C'est le fruit qui parle de l'arbre. Lorsque vous êtes comme moi, nul en botanique. Vous pouvez vous retrouver dans un jardin plein d'arbres de fruits, vous les regardez, vous dites c'est top, c'est super, c'est des arbres. Mais lorsqu'il y a le fruit, ah là c'est différent. Parce que je crois qu'au moment du fruit, on sait reconnaître, non? Oui ou non? Et on s'approche, et encore, il faut que le fruit ait un goût qui ne soit pas un fruit sauvage, immature, aigre, qui laisse un mauvais goût, mais c'est un fruit qui doit donner envie de dire « Ah, oh, j'en veux encore ». Et la volonté de Dieu, c'est que ceux qui sont autour de nous, lorsqu'ils s'approchent d'un enfant de Dieu, ils puissent se dire « J'en veux encore ». Je désire encore savoir comment tu as atteint ce niveau, comment tu peux donner ça dans ta vie, parce que je te connaissais. Mais maintenant, je vois une autre personne. Et cela, c'est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Cela, c'est le fruit de la présence de Christ dans notre cœur. Amen. Alors, faisons attention à ne pas nous laisser voler par l'ennemi. Soyons des porteurs de fruits. Alors, si la parole de Dieu nous parle du fruit, j'aimerais avec vous voir de quel type de fruit il est question. Bien évidemment, la parole de Dieu nous parle déjà du fruit de la repentance. Ça veut dire que lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur et que nous avons pris un engagement avec Dieu, ce n'est pas juste le fait de le dire, mais il doit y avoir une démonstration, il y a un fruit, il y a quelque chose qui finalement témoigne de cette transformation dans nos vies. Parce qu'autrement, on est resté comme avant, on a fait un simulacre de conversion, mais il n'y a eu aucun changement. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas juste le fruit de la repentance, parce qu'on pourrait être toute notre vie en train de nous repentir. Mais je voudrais te dire, si tu passes ta journée à te repentir, c'est que tu passes ta journée aussi à pécher. Ben oui. Alors oui, bien évidemment, il faut demander, Seigneur, je te demande pardon, parce qu'on commet tous des péchés. Mais attention à jouer avec le péché. C'est un serpent qui, si te mord, il ne te lâche pas. Il a tendance à s'enrouler autour de toi et t'enlever la vie. Je ne pense pas que vous vous amuserez à laisser vos enfants jouer avec un serpent. Quel est le serpent le plus dangereux? À ce que j'ai cru comprendre, c'est le mamba noir. Il est moche. Il est moche, mais il est surtout dangereux. Parce qu'il vous jette un venin qui agit, même par absorption par la peau, il vous rend aveugle, il met votre cœur en défibrillation et hop, tu meurs sur place et après il s'occupe de toi. Alors si tu joues avec l'ennemi, tu penses jouer avec le péché, tu penses que tu as le truc de dire « allez, hop !» Tôt ou tard, il va te mordre ou il va te jeter le venin. Et là, tu ne pourras plus rien faire. Il est question pour nous de dire, Seigneur, je ne veux pas vivre dans un péché permanent, mais je veux porter un fruit de cette repentance qui fait que, jour après jour, Seigneur, je t'honore par ma vie, je t'honore aussi par le fait d'être capable de m'humilier devant toi. C'est difficile de s'humilier, non? On préfère dire « je ». J'ai fait ceci, j'ai cela. Je. Mais le Seigneur nous amène plutôt à dire « tu ». Parce que c'est lui qui opère dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alors, si on allait dans la lettre aux Philippiens au chapitre 1, les versets 9 à 11, il nous est parlé du fruit de la justice. L'apôtre Paul dira, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » Parce qu'on peut parler d'amour, mais l'amour, c'est pas les herbes de Provence, hein, qu'on met sur tout et partout. Il est question d'un amour qui abonde, ça veut dire qu'il doit aller au-delà, comme nous a été dit ce matin. Ce n'est pas juste remplir pour avoir le confort de déplacer le verre sans faire tomber de l'eau. Il faut que ça déborde. Amen. En connaissance et en vraie sensibilité, pas des larmes de crocodile. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli de fruits de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Le mot sincère, vous savez déjà d'où ça vient. Sincère. En effet, il semblerait que les vendeurs italiens de marbre, de granit, pour vendre à meilleur prix leur matière, ils m'aient passé de la cire qui venait boucher tous les trous pour montrer que finalement, le produit qu'ils vendaient, il était parfait. Sauf que le problème, c'est que si on le mettait au soleil, la cire, elle fondait et on voyait tous les défauts. C'est pour ça qu'il a été question de vendre un produit sincère, sans cire. Il le mettait au soleil pour le voir. Frères et sœurs, pour que notre cœur soit vrai et sincère, il a besoin de se placer devant Dieu. Et c'est lui qui montre s'il y a encore des défauts. Mais c'est aussi lui qui les corrige. Acceptons que le Seigneur corrige notre cœur. Jacques chapitre 3 verset 18, il dira « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. » Un fruit porte en lui-même normalement sa semence, non? Généralement, on dit c'est les pépins. Hein, on mange des oranges, des mandarines, des clémentines et tous les hines possibles. Et on n'aime pas les pépins. Qui aime les pépins? Pourtant, s'il n'y avait pas de pépins, il n'y aurait pas d'autres arbres, hein, non? Alors nous, on les jette parce qu'on dit ça, c'est pas bon. Mais parfois, en les jetant, on participe parce que là, il y aura un autre arbre qui va pousser. Mais il est question pour nous d'être des artisans de paix. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui montre aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, l'arbre permet de reconnaître, le fruit permet de reconnaître l'arbre. La paix de Dieu habite en nous et nous sommes porteurs de cette paix. Alors, comment le reconnaître? Hébreux chapitre 12, versets 11 à 15. Il nous dira quelque chose qui peut sonner étrange à nos oreilles, mais nous avons besoin de l'entendre, car toute la parole nous a été donnée pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous reprendre, mais aussi pour nous amener à grandir. Amen. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Qui aime être corrigé? Personne. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Un virus peut changer la vie de tout le monde, non? Vous en rappelez? Pas besoin de donner d'explications. Comment on prenait ce virus? Comment on prend un virus en général? On se dit, ah là là, tu vas saluer, tu te prends un truc. Il y a un moment, il y avait une vraie phobie. Des gens qu'on avait toujours pris dans nos bras, je t'aime au loin. Je t'aime au loin, mais jusqu'à un certain moment. Viens, viens. Non. On avait peur. Mais il a fallu qu'à un moment, cette peur, elle quitte. Et l'amour de Dieu est celui qui nous permet de laisser la peur de côté, la peur d'ouvrir notre cœur aux autres, d'accepter aussi que le Seigneur puisse nous faire du bien par les uns et les autres. Amen. Parce que aimer, ça nous oblige à ouvrir nos bras et ça oblige quelque part à nous mettre à découvert. Aimer, ça veut dire être capable de montrer de vrais sentiments. Mais combien de fois cet amour a pu être bafoué, trahi, trompé? Et si on faisait comme ça, ben ça veut dire qu'on n'aimerait plus personne. Même soi-même, peut-être, on se dirait limite. Non? Et si Christ avait fait ça? Parce que quand on regarde la vie de Jésus, ça n'a pas été simple, vous êtes d'accord? Il est venu manifester l'amour et il a reçu quoi? Des crachats, des coups de fouet, on lui a arraché la barbe. Une couronne d'épines, des clous dans les mains, dans les pieds. Pourtant, il était venu montrer amour. Et à la croix, qu'est-ce qu'il manifeste ? Il aurait pu manifester une colère, je vous assure, un mot de la part de Jésus. Tout était réglé. Mais il dira quelque chose qui a tout réglé. Père, pardonne-leur. Ça, c'est l'amour. Et cet amour est ce même amour qui a été semé dans notre cœur. Il n'y a pas un autre amour. C'est l'amour qui découle de la croix, qui vient agir dans notre cœur. Et cet amour doit faire de nous des ouvriers de paix, mais aussi des porteurs d'un amour qui, finalement, produit le fruit de la justice à ceux qu'elle forme. Alors que Dieu puisse nous former. Amen. Que Dieu nous donne la forme qu'il veut. Il est question du fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 25. On ne va pas trop s'attarder sur ce texte. Je sais que vous le lisez tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Quand tu marches à ta dégaine, on doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que tu marches droit et pas comme ça. Il y en a un qui se bouge comme ça, c'est quoi ? Ou celui qui a malheureusement forcé et qui... Et quand quelqu'un conduit comme ça, qu'est-ce que vous faites généralement ? On ralentit, on se dit, lui, il n'est pas net. On va le laisser s'éloigner parce qu'on ne veut pas se retrouver en situation difficile. Par contre, si quelqu'un marche droit et qui respecte les limitations, qu'est-ce qu'on fait généralement ? On se met derrière, on se dit, c'est bon, là, je sais que je ne risque pas de me prendre un PV si j'ai le pied lourd. Mais ce n'est pas chez nous, ça. Le monde a besoin de trouver des hommes et des femmes qui marchent droit. Il dit la parole de Dieu que le monde a besoin de la révélation des enfants de Dieu et ils doivent nous reconnaître parce qu'on marche selon l'esprit et non pas selon la chair. Il est question encore de la sanctification. Romains chapitre 6, verset 22-23. Mais maintenant libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous avez pour fruit la sanctification. C'est quelque chose qui doit être naturel, la sanctification. Ça ne devrait même pas être l'effet d'un effort, non ? C'est quelque chose qui devrait être chez nous une consolidation de notre vie spirituelle avec Dieu qui fait qu'on renonce à tout ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas saint. Vous savez, ces pensées qui arrivent, ces images, ces tentations, quand on est derrière son ordinateur, on regarde droite à gauche, il n'y a personne, tiens, si. Et non, il ne faudrait pas tomber là-dedans, que Dieu nous garde. Parce que si tu crois qu'il y a juste à droite à gauche, tu as oublié qu'il y en a un en haut qui te voit. Et ce n'est pas le satellite de je ne sais pas quel pays, c'est Dieu. C'est Dieu. Et lorsque tu fais ce genre de choses, Dieu détourne son regard de toi. Et là, la sanctification, on l'a mise à la poubelle. C'est beaucoup plus dur de dire non que de dire oui. Non ? Mais lorsque tu as dit non, peut-être t'es frustré d'un coup parce que quand même, mais t'es heureux d'avoir pu dire non. Et la joie, elle vient après parce que le Seigneur te dit bien, c'est bien mon enfant. Mais si tu dis oui et qu'après tu sens qu'il y a quelque chose qui a été coupé, il y a un silence, tu lèves le combiné et pas une note. Seigneur, j'ai besoin de toi. Silence. Et c'est là que, à nouveau, tu dois te mettre à genoux, t'humilier. Alors que Dieu fasse que ça soit pas le sport national, je pêche et je m'incline, mais j'avance et je le loue, ça oui. On clôture un dernier texte, Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 21. Vous savez, le fruit, il est question du fruit de la lumière. Dans ce dernier texte, on a vu le fruit de la justice, de l'esprit, de la sanctification, le fruit de la lumière. Et généralement, le fruit a besoin de lumière pour mûrir. Quand il y a beaucoup de soleil, il y a de la pluie, il y a tous les éléments, le fruit, il est bon, il est abondant, il a une belle taille, un bon goût, non ? Les fameux melons de Cavaillon. Mais ceux de Cavaillon, non pas ceux qui viennent de je ne sais pas où, mais ces melons de Cavaillon produits à l'autre côté de la planète. Non, le vrai melon de Cavaillon. Et là, tu le goûtes et tu dis, c'est pas jeûne et prière aujourd'hui, dommage. On lit le texte ensemble, parce qu'il est question pour nous de comprendre que le fruit a besoin de la lumière pour atteindre maturation, couleur, goût et quantité de sucre. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît à la est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous ou comme des fadas, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. C'est ça le fruit qui doit être en nous. Amen. Je dis souvent, imaginez que le Seigneur revienne ce soir, ou demain matin, ou cette nuit, tiens, ou pendant la gape, ou maintenant. Là, maintenant, 5 secondes, 5. 4, 3, 2, 1, sommes-nous vraiment prêts? Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est bien plus court que ça. En un instant. Et là, tu n'as plus le temps de dire, Seigneur, j'avais préparé un discours. Seigneur, j'avais préparé une belle prière. Non, c'est, tu dois être prêt 24 heures sur 24. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Et si le Seigneur s'approche de ta vie. Il ne faut pas juste voir Jésus qui s'approche de nous pour nous guérir. Qui voudrait que le Seigneur s'approche de lui pour le guérir? Amen. On est d'accord? Gardez la main levée. Soyez courageux. Assumez. Il y a quelque chose ici que le Seigneur vient chercher. Souvenez-vous du figuier. Il avait de belles feuilles, le figuier. Mais il n'y avait pas de fruits. Et si le Seigneur s'approche de toi, il ne voit que des feuilles, qu'une image religieuse, mais qui ne trouve pas de fruits, les conséquences peuvent être terribles. Mais s'il trouve un fruit, même s'il est tout petit, chose qui est impossible, impossible, parce que si Christ est là, il y aura du fruit et du fruit qui déborde. Amen. Quelle va être sa réaction? Et quelle va être ta joie d'être celui qui apporte du fruit? Et qui peut dire, Seigneur, si le fruit est là, c'est parce que tu es là. Amen. Alors est-ce qu'on peut dire au Seigneur, prends toute la place là, dans mon cœur? Et s'il y a encore quelque forme de stérilité, Seigneur, viens me guérir. Vous savez que Dieu guérit de la stérilité ? Comment ? Par la foi. Je vous ai raconté un jour, et je vous le répète ce matin, ça peut vous encourager, l'attitude d'un frère jeune converti qui habitait sur Caserta et qui avait un citronnier dans son jardin qui ne portait pas de fruits. Il était vide, stérile. Et toutes les fois que ses amis passaient prendre un café avec lui, il se moquait de son citronnier. Il dit, ton citronnier, il sert à rien, ton citronnier ceci, ton citronnier. Et il en a eu tellement marre, il dit, je vais leur fermer le clapet. Il est allé acheter une cagette de citron. Il est arrivé à la maison, il a pris les citrons, il les a suspendus à l'arbre avec du fil de pêche. Il dit, quand ils viendront la prochaine fois, ils verront qu'il y a des citrons, ils vont me lâcher. Il l'a fait, c'est sérieux ce que je vous dis, c'est vrai, hein ? D'accord ? Ses amis sont venus, oh, wow, il y a des citrons ! Oui, il y a des citrons. Eh bien, vous savez, l'année d'après, le citronnier avait ses citrons à lui. Il avait peut-être besoin d'un exemple, quelqu'un qui lui rappelle quel était le but pour lui. Si on a besoin de comprendre quel est notre but, regardons à Christ. On incline nos têtes, on ferme nos yeux. Seigneur, merci parce que, Seigneur, il n'y a personne autre que toi. Tu es le seul modèle parfait, Seigneur, et même si autour de nous, nous avons des hommes, des femmes, de foi, des frères, des sœurs qui ont peut-être un parcours plus long que le nôtre avec toi, Seigneur, tu es le modèle parfait. Seigneur, je veux aimer mes frères et mes sœurs, je veux prier avec eux, je veux grandir avec eux, je veux être, Seigneur, avec eux, présent, engagé, Seigneur, mais tu demeures le modèle. Parce que eux comme moi et moi comme eux, nous avons des défauts. Il ne faut pas qu'on prenne les défauts les uns des autres comme si c'était un modèle. Mais Seigneur, nous désirons, comme tu l'as dit, être tes disciples. Et pour être tes disciples, Seigneur, autant que disciples, c'est le maître que nous devons regarder. Seigneur, que tu puisses être toujours devant nos yeux. Et que nos yeux puissent te suivre, Seigneur, ainsi que nos pieds, nos mains, notre cœur. Que nous puissions être, Seigneur, à ta suite, comme ces hommes et ces femmes qui aiment leur maître et qui ne le laissent pas d'une semelle. Seigneur, tu as marqué notre vie par ton amour. Que cet amour, Seigneur, puisse être débordant dans nos vies. Seigneur, tu as produit en nous la vie de l'Esprit par le Saint-Esprit. Seigneur, que la vie de l'Esprit déborde dans nos cœurs, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à être des témoins de la vérité. Que cette vérité que nous apportons, que nous partageons, Seigneur, soit, Seigneur, sous l'onction de ta main et qu'elle produise, Seigneur, pour la gloire de ton nom, des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, que ton Église, elle porte du fruit en abondance et du fruit qui demeure. Seigneur, merci pour l'église de Arles. Bénis ton œuvre. Bénis, Seigneur, ton église. Bénis, Seigneur, le couple pastoral. Bénis le conseil d'administration. Bénis tous ceux et celles qui sont engagés, ceux qui soutiennent, ceux qui prient, Seigneur. Bénis ceux qui ne peuvent pas venir parce que leur corps ne les suit pas. Seigneur, bénis-les, fortifie-les. Seigneur, bénis encore ce matin ceux qui sont dans un lit d'hôpital. Seigneur, que ta main les relève, Seigneur. Et qu'on dise... C'est le fruit de la grâce et de l'amour de l'Éternel. À toi toute la gloire, notre Dieu, notre Père. Amen.